Dans un quart d'heure, le billet de François Morel. Dans quelques minutes, on accueillera Jean-Christophe Ruffin, invité d'honneur du salon Radio France Fête le Livre ce week-end. Et avec nous, Jean-Louis Bourlange, professeur à l'IEP de Paris, ancien vice-président de l'UDF et aujourd'hui engagé au sein de l'UDI de Jean-Louis Borloo. On regarde l'état de la droite avec vous depuis 8h20, Jean-Louis Bourlange. Question d'un auditeur au standard de France Inter, Olivier du Lot-et-Garonne. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre ma question. Ma question est très simple. Les malheurs rencontrés par, les péripéties rencontrées par l'UMP aujourd'hui ne sont-elles pas à l'image des choix philosophiques que la droite française a fait depuis environ 10 ans? Comment ne peut-on pas précipiter dans le désarroi une certaine droite véritablement républicaine en s'accaparant les arguments depuis 10 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans d'un homme convaincu par l'eugénisme et par bien d'autres approches plutôt assimilables aux manies classificatoires bien plus qu'à l'universalisme de la République?
Merci Olivier. On m'a mis une note personnelle sur votre fiche. Est-ce que je peux la dire ou est-ce que vous pouvez la dire sur votre engagement politique à vous?
Écoutez, éventuellement, vous pouvez toujours. Moi, je suis un grand déçu de beaucoup de choses et aujourd'hui, je vais faire un point vraiment pour arrêter de me tromper.
Bon, mais
parce que je me suis trompé réellement. Je me suis réellement trompé.
Vous étiez adhérent à l'UMP ?
J'ai abusé, mais par tempérament, j'ai plutôt tendance à dire que je me suis trompé parce que je prends mes responsabilités.
Bon, vous étiez adhérent à l'UMP, vous venez de la quitter, c'est ça ?
Exactement.
Bon, merci Olivier pour ce témoignage. Question à vous, Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que la dérive droitière de l'UMP est absolument évidente et je comprends.
De l'ensemble de l'UMP ?
Non, pas de l'ensemble. Sinon, il n'y aurait pas cette division extrêmement forte, cette polarisation que nous voyons à laquelle nous assistons actuellement. Mais effectivement, vous voyez cette motion de la droite forte, elle a été.
Elle est arrivée en tête avec 28%.
Elle est rédigée par, sans doute, sous l'inspiration de Monsieur Buisson, qui est un personnage qui est tout à fait extérieur à la tradition gaulliste, qui vient de Minute, qui vient d'une droite très profonde et qui ne correspond pas du tout à l'esprit dominant des familles qui ont constitué l'UMP. Alors, moi, je comprends très très bien. D'abord, c'est très bien de dire qu'on se trompe. Moi, j'ai passé ma vie aussi à me tromper de temps en temps, assez souvent, pas toujours.
J'espère pas ce matin.
Mais oui, j'espère pas ce matin. Mais en tout cas, ça fait du bien que les gens disent qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'en réalité, ils prennent des responsabilités. Que la politique, moi, je me rappelle ce que disait Raymond Aron, la politique, c'est essentiellement un art risqué. C'est un art risqué moralement, risqué politiquement, risqué moralement. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on ne sait jamais très bien où ça va tomber et c'est toujours délicat. Bon, en tout cas, là, je crois que c'est très, très clair. On a vraiment une tendance dominante à l'UMP qui fait que si François Fillon était proclamé au terme de ce marathon incompréhensible, était proclamé président de l'UMP, je pense qu'il aurait énormément de difficultés à diriger le mouvement parce que la dynamique, je ne dis pas qu'il n'y ait pas énormément de gens qui se réclament d'une position modérée, centriste, ouverte aux valeurs libérales, républicaines,
notamment chez les sympathisants,
etc.
À lire les sondages.
Chez les sympathisants, mais en même temps, on voit bien que la dynamique est ailleurs. Et ça serait très difficile. Je pense que c'est ça l'explication de ce que vous avez sans doute ressenti comme moi, qui est l'hésitation fondamentale de Fillon depuis 3 jours. On sent que Fillon est un peu terrorisé à l'idée de gagner. Il a dit, ils ont triché, mais je ne me proclame pas vainqueur. Ensuite, je demande Alain Juppé, mais je ne suis plus candidat. Ça dénote une sorte d'inquiétude devant une évolution dont il se dit qu'il n'est sans doute pas l'homme capable ni de la conduire, ni de la contrecarrer. Et effectivement, il me semble que nous devons tenter autre chose. C'est ce que nous essayons de faire à l'UDI. Ça n'est pas gagné. Nous avons bien commencé. Nous allons progresser. Nous devons sortir de notre léthargie intellectuelle, parce que ça fait l'UDF depuis 20 ans ne pense plus non plus. On dit libéral social européen, point final. Mais on n'a pas du tout fait le travail. Ça, c'est un des reproches qu'on peut faire aux dirigeants de l'UDF des 20 dernières années. On n'a pas fait le travail intellectuel d'adaptation à une situation fondamentalement différente du fait de la mondialisation d'une part et du fait de l'effondrement du bloc socialiste et du réveil des pulsions identitaires un peu partout. On a un travail d'adaptation que nous devons mener à bien et qui n'est mené à bien ni à gauche ni à droite actuellement.
Une question de Thomas Legrand.
Vous vous souvenez quand Malraux disait que le gaullisme c'était le métro à 6h du soir. Finalement, Jean-François Copé et peut-être Patrick Buisson, ils cherchent, alors ils ne trouvent pas dans la tendance qui vous plaît, mais ils cherchent, c'est ce qu'ils disent, à renouer ce lien avec le monde du métro
La reconquête par le peuple, c'est l'expression utilisée par Buisson.
Comment le faire ? Est-ce que par le centre, c'est possible ? Et quel mot vous avez pour ce peuple ?
Je crois que ce n'est pas la question du centre ou pas du centre. La question, c'est de savoir comment on parle aux gens. C'est évident que les partis politiques bourgeois, on va dire, pour parler comme naguère, ont perdu le contact avec le peuple et que le Front National, notamment, de ce point de vue-là, a occupé un terrain qui a été laissé en jachère par les partis, y compris par le Parti Socialiste, qui avait même fait, à travers la prise de position de cet homme que j'aimais beaucoup d'ailleurs et dont nous regrettons tous la disparition, qui est Ferrand, mais il avait, à mon avis, de façon très abusive, Olivier Ferrand, il avait de façon très abusive dit que la gauche devait laisser les pauvres, en fait. C'était presque salaud de pauvres, comme dirait Marcel Aimé. Devait laisser les pauvres et s'occuper des classes moyennes. Je crois que quand la gauche renonce au peuple, là, Mélenchon n'a pas tout à fait tort de le dire, ça pose un problème.
François Hollande a fait de très bons scores dans la classe populaire.
En tout cas, Mélenchon ne les a pas fait.
Jean-Louis Bourlange, que là-dessus, la réponse de Patrick Buisson et de ses fidèles est très claire. C'est-à-dire que la question sociale, à ses yeux, doit être résolue par la question identitaire.
Je crois tout à fait à la notion d'identité, mais à condition de ne pas se tromper d'identité. Oui. Moi, je crois que ce qui fait l'identité de la France, ce qui fait que la France, que le peuple français est un peuple, c'est qu'il croit à des valeurs fondamentales de démocratie, de liberté, de dialogue, de participation.
Aux yeux de Buisson, ce sont les frontières et l'enracinement territorial.
Ce que je ne pense pas, et c'est en cela que je suis en désaccord profond avec cette ligne, ce que je ne pense pas, c'est qu'on doive s'adresser aux gens en leur racontant des histoires. Il faut sauver la protection sociale, mais ça demande des efforts. C'est évident, il faut que les Français travaillent plus, travaillent mieux, il faut que l'État dépense moins, il faut faire un certain nombre d'efforts qui ne sont pas... Il ne s'agit pas de se mettre au niveau des Chinois de Chongqing ou de Shanghai, ça pas du tout, heureusement. Mais il s'agit de se mettre dans la même situation que les Scandinaves ou que les Allemands. Il y a des efforts à faire. Et il faut parler ce langage. Et en même temps, il ne faut pas effectivement cultiver l'idée que c'est en se séparant de ses voisins européens qu'on y arrivera. On est en face de la Chine, de l'Inde, d'une Russie qui n'est pas très bien stabilisée, d'une Asie centrale qui est extrêmement inquiétante, d'une Afrique qui, heureusement, commence à décoller, d'une Amérique qui renaît. On ne va pas y arriver tout seul. Il faut qu'on fasse ça ensemble. Alors je dis, disons la vérité aux gens qui prennent le métro et ils voteront peut-être pour nous en nous respectant.
Merci Jean-Louis Bourlange d'être venu nous éclairer ce matin au micro de France Inter. Dans un instant, après une courte pause, Jean-Christophe Ruffin avec nous.
Question de bon sens avec le Crédit Agricole.
Monsieur Chopineau, miser sur des entreprises innovantes pour diversifier votre patrimoine, ça vous tente ?
Oui, soutenir des petites boîtes avant-gardistes qui deviendront peut-être les fleurons de l'économie de demain, ça m'intéresse.
Alors, qu'est-ce qui vous freine ?
Il faut tout de même les repérer.
Avec les fonds communs de placement dans l'innovation du Crédit Agricole, associez-vous au potentiel de croissance de PME innovantes et bénéficiez de réductions d'impôts. Crédit Agricole, le bon sens a de l'avenir. Placement soumis à conditions, bloqué jusqu'à 10 ans avec risque de perte en capital. Documentation dans les agences participantes.
Vous avez entre 16 et 25 ans, peu ou pas de diplôme ? Vous cherchez une première expérience professionnelle enrichissante et reconnue ? Vous êtes une association, un organisme à but non lucratif ou une collectivité territoriale et vous cherchez à recruter des personnes motivées? Avec les emplois d'avenir, l'État aide à la création de 150 000 emplois pour les jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas diplômés. Renseignez-vous auprès de votre mission locale, de Pôle emploi ou sur www.lesemploisdavenir.gouv.fr. Emploi d'avenir, pour l'emploi, tous ensemble.
C'était un message du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
La Clémentine de Corse, elle vient de débarquer. Vous n'avez que 2 mois pour découvrir son délicieux caractère et faire le plein de vitamines. La Clémentine de Corse. Qu'attendez-vous pour la déguster ?
Campagne cofinancée par l'Union européenne et la collectivité territoriale de Corse.
Il est 8h48.
Le 7-9 de France Inter.
Patrick Cohen.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Vous serez l'invité d'honneur de Radio France Fête le Livre. Ça se passe demain, samedi de 13h à 20h, dimanche de 14h à 19h, dans un chapiteau installé face à la maison de Radio France. Près de 200 auteurs en dédicace. Et sur les ondes des stations de Radio France, j'en cite quelques-uns, mais pas tous. Olivier Adam, Aurélien Bélanger, Yves Coppens, Patrick Deville, Mathias Sénard, Laurent Godet, Joël Dicker. Beaucoup de primés là-dedans. Bernard Guetta aussi, puisque les auteurs maison seront représentés. Est-ce qu'il y a parmi la liste que je viens de livrer, ou par chez d'autres écrivains, quelqu'un que vous avez lu, admiré, et que vous avez très envie de rencontrer, avec qui vous avez très envie de dialoguer ce week-end?
Vous avez cité Joël Dicker déjà.
Oui, Goncourt des lycéens.
Goncourt des lycéens et Grand Prix du roman de l'Académie française.
Oui.
Et
pour La vérité sur la Ferrari qui est
voilà,
belle.
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup défendu. D'ailleurs, quand je dis qu'il a été pris du roman de l'Académie française, c'est pas évident qu'un livre qui se passe aux États-Unis, qui est écrit très à l'américaine, ait été célébré par une maison qui sélectionne d'habitude plutôt des livres sur le style, etc. Voilà, et j'ai croisé Joël Dicker au moment de la remise de ce prix, mais j'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui. Et j'aimerais bien le rencontrer. Vous savez qu'il est très jeune.
Très jeune homme, très jeune, il est né en 89,
oui, il a 27 ou 28 ans, voilà. Et c'est un auteur très, très prometteur. Oui. Voilà.
Alors,
donc, mais il y en a beaucoup. Hein. Vous savez, l'invité d'honneur, c'est celui qui est dans la locomotive, qui met le charbon dans la locomotive. Mais voilà, je suis parmi les autres et j'espère que le public viendra nombreux les voir parce que c'est une occasion finalement assez exceptionnelle à Paris. À Paris, il n'y a pas grand-chose. Vous savez que les grands salons du livre en France sont plutôt dans des villes moyennes. C'est à Brive, c'est à Saint-Malo, à Nancy, etc. Ouais. Et au fond, les grandes villes, les très grandes villes, et en particulier Paris, n'ont pas beaucoup, donnent pas beaucoup d'occasions au public de rencontrer les auteurs. Il y a le Salon du Livre de Paris, mais c'est une grande, grande foire qui est quand même plus organisée autour des éditeurs que des auteurs. Là, c'est vraiment les auteurs soutenus par les radios de Radio France. Et je crois qu'il y a un mariage, en fait, que ce salon symbolise bien, cette fête du livre symbolise bien entre la radio et l'écrit. Les radios sont, je pense, pour les auteurs, le média le plus fidèle. Hein. Aujourd'hui, la presse écrite ou la télévision, c'est très difficile pour les auteurs. Et les radios donnent aux livres une place considérable.
Il y a beaucoup de bons livres, on vient d'en évoquer quelques-uns, et l'édition ne se porte pas très bien ces temps-ci, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez une explication ?
Oui, mais vous savez, ça allait... Bon, moi, je suis pas inquiet sur ces choses-là. Je pense que, voilà, il y a des années avec, des années sans, etc. Bon, l'édition, il y a différentes choses. Il y a la question, les libraires se plaignent beaucoup de la concurrence d'un certain nombre de
Bien
sites
sûr.
Internet, etc. Ça, c'est, j'allais dire, d'ordre technique. Mais la lecture, le fait que les gens lisent, qui se destinent d'ailleurs pour les fêtes qui viennent à offrir des livres, hein, puisque finalement, il y a une statistique récente, là, les Français, parmi les cadeaux qu'ils vont faire, c'est le livre qui a le vent en poupe. Donc vous voyez, je crois que tout le discours sur la fin de l'écrit, etc., faut le tempérer beaucoup. Et moi, ce que je constate quand on fait le tour de France dans les librairies, les fêtes du livre, etc., c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui continuent à être fidèles au livre, c'est heureusement.
Et vous serez présent donc ce week-end avec, j'imagine, votre dernier roman, Le Grand Cœur, qui est paru en juillet chez Gallimard, mémoire à la première personne de Jacques Coeur, qui fut l'amoureux d'Agnès Sorel et le grand argentier de Charles VII, c'est ça?
Oui, mais vous voyez, pas pour parler de mes livres, mais c'est un exemple, vous voyez, Charles VII, Jacques Coeur, tout ça est loin quand même hein, de l'actualité, et des bagarres dont vous avez parlé abondamment tout à l'heure.
Quoique.
Voilà, justement. Et j'ai été très surpris, moi, ce livre, en fait, il est paru au mois de mars. Il a eu un énorme succès. Il continue à bien fonctionner. Et, bon, ça veut dire qu'au fond, voilà, les gens s'intéressent à l'actualité, mais il y a aussi un goût pour d'autres choses, des choses plus décalées peut-être, et qui sont ce que la littérature peut offrir. Et je crois qu'il y a qu'elle qui puisse offrir ça.
Et les Français sont de grands lecteurs de romans historiques
de façon
générale. Vous avez été, vous avez gardé évidemment, Jean-Christophe Ruffin, un œil sur la planète. Je rappelle que vous avez été ambassadeur au Sénégal pendant 3 ans, de 2007 à 2010, dans une région que vous connaissez bien. Bernard Guetta, une question à vous poser sur la situation dans cette région.
Justement, est-ce qu'il y a une possibilité, un espoir que les nationalistes Touaregs se séparent au Nord Mali de leurs alliés, je dirais, d'occasion, parce qu'en vérité, ils n'ont pas grand-chose en commun, que sont les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Oui, ben je crois que c'est en cours, hein, parce que les dissensions entre les islamistes et les Touaregs sont maintenant arrivées vraiment au grand jour. Hein. On le voit entre les MNLA, les Mujahoud, etc. Il y a vraiment des bagarres. Moi, ça fait longtemps que je pense que la solution dans cette région, c'est le dialogue avec les Touaregs, parce que au fond, les Touaregs, comme vous le disiez très justement, n'ont rien à faire avec les islamistes radicaux. Ils se sont jetés dans leurs bras un peu par désespoir, parce que personne ne les a jamais écoutés, parce qu'après la guerre en Libye, il y a un certain nombre de combattants et d'armements qui ont été mis, j'allais dire, à leur disposition de certaine façon par le biais de ces groupes radicaux islamistes, mais ils n'ont rien à faire ensemble. Et je pense que dans l'opération qui se prépare, et à laquelle personnellement je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les Français, je pense qu'on parle beaucoup de la Syrie, on a raison, mais on parle pas...
Opération armée. Hein.
Oui, mais on ne parle pas assez de cette opération qui se prépare et qui est absolument fondamentale parce que, imaginez que la création durable d'un État islamiste dans cette région fragile. Vous savez, tous les pays de la côte d'Afrique, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, etc., sont en train d'aller mieux. Ils ont été très mal en point il y a quelques années, puis ils vont mieux. Et aujourd'hui, vous avez dans leur arrière-cour, derrière eux, entre le printemps arabe au nord et ces pays côtiers d'Afrique, vous avez l'arrivée d'une sorte de bombe dégoupillée qu'est cette présence islamiste.
Vite, puisqu'il ne nous reste qu'une minute. Est-ce que l'intervention armée est obligatoire ? Parce que finalement, si les Touaregs se séparent des djihadistes,
oui,
c'est
mais ils n'ont pas la, ils
pas
n'ont,
forcément nécessaire.
Bah, ils n'ont pas les moyens militaires pour être victorieux. Je veux dire, les djihadistes sont quand même plus puissants que les Touaregs. Il faut un coup de pouce. On voit bien que les islamistes sont nerveux. La prise d'otages récente là, montre qu'ils essaient d'accumuler les cartes pour résister. Bon, les Algériens ont changé un peu de position. Et je crois qu'ils sont quand même plus favorables, ou en tout cas moins défavorables qu'avant à une intervention armée. À mon avis, il faut laisser faire la CDAO. Il y a une forte demande des pays africains, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, etc. On ne peut pas faire autrement que de les appuyer, non pas d'intervenir nous militairement, mais de les appuyer dans quelque chose qui est très important pour eux et très important pour nous aussi.
Merci Jean-Christophe Ruffin, locomotive donc, comme vous l'avez dit, d'une pléiade d'auteurs présents ce week-end sur le chapiteau installé en face de la maison de Radio France. Radio France fête le livre demain et dimanche. Merci d'être venu nous voir dans 30 secondes, François Morel.